avec une programmation parlée en semaine et la meilleure musique de la business la fin de semaine.
Hey everybody, this is Billy Joe from Green Day.
Hello, I'm Kurt.
And we are Nirvana.
Hey, Quebec City. This is Dom Howard from Muse.
I'm in Linkin Park and I like to rock.
Good evening, Ozzy.
Hello there.
L'incontournable pour l'été. Restez informés et rockés. Nous sommes Boulevard 102.1. Marceau.
Allez, debout.
Le matin.
S'appelle Marceau.
Marceau, le matin.
Qu'est-ce que c'est que ce bordel?
Le matin, ben oui.
Ah, il a bien changé.
Marceau, le matin.
Boulevard 102.1.
Petite revue de presse jusqu'à 6h30. C'est ce que je vous propose pour une partie de l'été, juste avant de partir en vacances. Comment ça va? Bon vendredi. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Mon nom, c'est Yann Marceau. Très content de t'accompagner encore une fois ce matin jusqu'à 10h, compagnie de mon chum Jeff qui va se joindre à moi. Mon chum Max aussi qui va se joindre à moi à partir de 6h30. Les deux seront là. Parce qu'il y en a qui sont déjà en congé. Je vois que sur la route, c'est un petit peu plus tranquille que d'habitude. Il y en a qui ont des fins de semaine de 3 jours. Je pense que je vous envie. C'est peut-être que je vieillis. Avant, j'aimais bien ça, avoir juste 2 jours de congé parce que ça m'empêchait de trop dépenser. J'avais le temps un peu de me reposer. Mais là, 3 jours de congé, ça se prend bien. Quoi qu'on revienne quoi, d'un congé de 2 mercredis où on n'a pas vraiment travaillé pour la plupart d'entre nous. Et bye-bye, c'est la vie, c'est la vie, c'est la vie. Aujourd'hui, de quoi ça va avoir de l'air côté météo? Même topo qu'hier, quoique, voyez-vous, ce matin, on se lève et c'est des nuages. Mais selon Environnement Canada, ça va être une alternance de soleil-nuages avec un 30% de probabilité d'averse cet après-midi. Encore là, il y a des risques d'orage cet après-midi. Est-ce qu'on s'en est sorti dans le secteur de Québec hier? Je pense que oui. Maximum de 30 degrés. Il y a plu un peu, mais ça n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Montréal. Ça a brassé. On s'en reparlera tantôt. Donc, un max de 30 aujourd'hui et l'indice humidex, donc possibilité d'une température ressentie de 38 aujourd'hui. Ça sera extrêmement chaud. Ce soir, cette nuit partiellement nuageux, encore là des probabilités d'averse à 30%, risque d'orage tôt en soirée avec un minimum de 18 degrés. Demain samedi, c'est souvent ce qui nous intéresse, il va faire beau. Alternance de soleil et nuages pour demain. 30% de probabilité d'averse, mais seulement en matinée avec un max de 26. L'indice humidex va être moins pire que les 2 derniers jours. On va tomber à 29. c'est encore humide, mais à 29, ça se prend beaucoup mieux que 30 ou 40, hein, un peu comme hier. Et dimanche, ben, ce sera ensoleillé avec un maximum de 26. Et si je vais à plus long terme, lundi, retour au boulot, ben, ce sera ensoleillé, maximum de 29 degrés. Pour me joindre en studio, s'il se passe quoi que ce soit sur la route ou encore vous avez des choses à me dire, c'est le 88-971-1021, 88-971-1021. Et si vous travaillez à l'extérieur aujourd'hui, peu importe ce que vous faites, énormément de respect. Lâchez pas, gang, on pense à vous autres. Petite revue de presse qui débute à l'instant. C'est des violents orages, oui, dans le secteur de Montréal. On vous en a parlé hier. On vous en reparle un peu ce matin. Actuellement, je regarde la mise à jour qui a été faite à 4 heures ce matin sur le site d'Hydro-Québec. C'est 62 000 foyers qui sont privés d'électricité en raison des conditions météorologiques qui ont été marquées par des orages violents qui ont été affectés dans plusieurs régions du Québec. On a eu des pics de vent de 120 km/h qui ont balayé pratiquement tout le Québec, provoquant des dégâts et des coupures d'électricité. C'est ce qu'on peut lire dans le Journal de Québec de ce matin. Majorité sur la rive nord de Montréal, 62 400 ménages qui étaient plongés dans le noir. Donc, ça a pas mal plus brassé là-bas qu'ici. 18 900 adresses qui étaient dans la même situation dans la région voisine, tout juste à côté, la Naudière, et 10 000 foyers à Laval. Et à Montréal, la situation semblait s'améliorer puisqu'il ne restait que moins que 2 000 ménages à rebrancher au réseau électrique de la Société d'État. Quelle raison on donne? Ben, les vents forts, mais c'est surtout, je sais que vous allez me trouver tannant, mais l'élagage. On a de la misère avec l'élagage chez Hydro-Québec. On a coupé là-dedans dans les dernières années, puis finalement, on s'est dit « Tabarouette, on a du retard ». Et là, on a demandé aux employés puis aux compagnies avec qui on fait affaire de faire le plus possible pour que, justement, on n'a pas de problème avec les branches et les fils quand il y a des gros vents comme ça. Malheureusement, on n'est pas encore capable. Et s'il y a des gens qui seraient portés à m'écrire, je vous le dis d'avance, par texto, vous avez le droit de m'écrire, mais enfouir toutes les fils du Québec dans le sol, ça nous coûterait des milliards et des milliards de dollars. Et jamais Hydro-Québec voudrait embarquer dans ça. Par contre, quand il y a des secteurs qui sont propices à ça, des secteurs touristiques, exemple, c'est le genre de choses qu'on peut faire comme investissement. Les nouveaux quartiers, quand on s'entend avec des promoteurs, on est capable de passer les fils dans le sol. Donc, c'est un peu plus facile. Mais pensez pas que les fils vont disparaître demain matin. Ça n'arrivera pas. Ça coûterait beaucoup, mais beaucoup trop cher. L'ONU qui a alerté hier sur un renforcement rapide du phénomène climatique naturel El Niño en cours, qui devrait atteindre une forte intensité entre juillet et septembre. Donc, on parle du niveau 3 et niveau 4. Donc, ça augmente la probabilité de phénomènes météorologiques extrêmes dans le monde. Et selon l'Organisation météorologique mondiale, des conditions El Niño sont apparues dans le Pacifique tropical et devraient se renforcer rapidement ces prochains mois, augmentant la probabilité de vagues de chaleur, de sécheresse, de fortes pluies et d'autres phénomènes météorologiques extrêmes dans de nombreuses régions du monde. On dit que le bulletin saisonnier sur le climat fait état d'une évolution rapide vers un épisode El Niño, donc de forte intensité, entre juillet et septembre, correspondant au niveau 3 sur une échelle de 4, indique cette agence de l'ONU dans le même communiqué. Et on dit que ce nouveau point de situation complète celui publié le 2 juin dernier qui annonçait l'imminence d'un épisode d'El Niño. Quelques jours plus tard, le 11 juin, l'Agence américaine d'observation océanique et atmosphérique confirmait le phénomène qui avait débuté en mai dernier. Et c'est un phénomène climatique qui est naturel. Ça se produit depuis que le monde est monde. Je ne sais pas si le premier jour c'était ça, je n'étais pas là, mais c'est un phénomène naturel. C'est pas dû au fait que vous prenez deux douches par jour. Si quelqu'un tente de vous dire ça, c'est un menteur. Donc, El Niño qui fait rage. Sondage Palace, on en sait un peu plus là, sur les intentions de vote des gens dans la grande région de Québec. Et j'ai inclus les gens de Chaudière-Appalaches. J'ai lu ça un peu on the side hier. C'est une bonne nouvelle pour les gens qui aiment bien le Parti conservateur du Québec. Parti conservateur du Québec qui serait premier dans la région de Québec ainsi que dans Chaudière-Appalaches. Mais juste pour la région de Québec, il serait autour de 27 % des intentions de vote. Le Parti québécois suit quand même assez loin à 21 % d'appui. Les choses ont le temps de changer. Hein. Je vais vous arriver avec un chiffre tantôt qui est quand même assez surprenant. Donc, 27 pour le parti d'Éric Duhaime, 21 % pour le Parti québécois de Paul Saint-Pierre Plamondon. La coalition Avenir Québec qui est toujours là, qui est toujours dans le top 3, même égalité avec le Parti libéral. Donc, mettons, disons top 4. Mais la coalition Avenir Québec et le Parti libéral du Québec sont coude à coude avec 14 % et Québec solidaire est en train de mourir. Donc, on ferme la marche en récoltant seulement dans la grande région de Québec et ailleurs un faible pourcentage, mais à Québec précisément, on est autour de 4 %. C'est un coup de sonde, donc c'est un sondage qui a été commandé par le Parti conservateur du Québec. Donc certains diront « Haha! C'est peut-être ça qui fait que les conservateurs sont premiers à Québec. » On en parlera un peu plus en détail tantôt. On dit que c'est le vent dans les voiles pour le parti d'Éric Duhaime à Québec. On dit aussi qu'il y a une marge quand même assez importante d'électeurs qui ne savent pas encore pour qui voter. Et ce pourcentage-là est incroyable. On parle de 20 % des gens dans la région de Québec qui ne savent pas pour qui ils vont voter aux prochaines élections. Est-ce que ce sera Parti vert? Est-ce que ce sera Québec solidaire? Est-ce que ce sera le Parti libéral? Est-ce que ce sera la CAQ? L'histoire nous montre que les gens qui sont indécis ne vont jamais dans les extrêmes. Donc, ce n'est pas des gens qui vont aller chez Québec solidaire. Si on considère que Québec solidaire, c'est un extrême, mettons que sur l'échiquier politique, effectivement, Québec solidaire est très à gauche. Si le Parti conservateur est un parti qui est à l'extrême, je pense pas, mais c'est un parti de droite économique, un peu plus hardcore là, que les partis mononques comme la Coalition Avenir Québec. Donc, ce 20%-là pourrait aller pour le PQ ou encore pour le Parti libéral. Moi, je vous dirais qu'il y a une petite proportion aussi qui pourrait aller au niveau de la coalition Avenir Québec. Ce serait du pareil au même. Mais quand même, 20 % des décis actuellement. C'est un gros chiffre. L'administration de Bruno Marchand qui, devinez quoi, serait favorable à un vieux Québec sans automobile, donc à l'intérieur des murs, à l'année, 12 mois par année, on ne voudrait plus d'automobile. C'est la Ville de Québec qui a nommé 17 commissaires qui vont réfléchir aux façons d'améliorer la mobilité dans le quartier historique. Donc, on voit de bon oeil là, le retrait des automobiles dans le Vieux-Québec. Et c'est ce que Mélissa Coulombe-Leduc a confirmé hier au Journal de Québec. On estime que le quartier historique pourrait être fermé à la circulation automobile à l'intérieur des remparts. Avant la pandémie, bien, le Vieux-Québec recevait 50 000 déplacements par jour, dont 250 autobus. On se questionne sur les impacts de la circulation automobile, sur la mise en valeur du patrimoine bâti, l'expérience touristique, la qualité sonore du quartier, tout en tenant compte de la nécessité pour les résidents d'accéder en automobile à leur domicile, de l'importance des livraisons commerciales, du déneigement, de la collecte des ordures, du passage des véhicules d'urgence. Mais je regardais, puis j'en parlerai tantôt avec les gars, je regardais le premier nom chez les 17 commissaires, là, c'est des gens qui sont pour la plupart pas très favorables aux véhicules. Donc, d'après moi, ces recommandations-là seront de fermer totalement le Vieux-Québec au passage de véhicules automobiles et que dire des autobus. Je me positionne juste pour les personnes à mobilité réduite, là, les gens qui veulent aller dans un restaurant, qui veulent aller visiter les boutiques. On reçoit des croisières. Pas toujours des gens de la vingtaine qui viennent en croisière, c'est des gens peut-être un peu plus âgés. Souvent, les taxis réussissent à les monter en ville. On va faire quoi avec eux autres? Ça va être un tuk-tuk? Ça va être un baiser capital? Un baiser capital électrique? Je sais pas. Mais j'ai hâte de voir leurs recommandations. Moi, je suis pour les rues piétonnières quand il fait beau. Quiconque est contre les rues piétonnières quand il fait beau est une mauvaise personne. Tout le monde sait ça. Mais la rue Saint-Jean, quand il fait beau, quand c'est le gros soleil, c'est agréable. On se promène, les terrasses sont plus grandes que d'habitude. On s'arrête, on prend une bière, on regarde le monde passer, on met mère, on jase. C'est vraiment quelque chose de le fun. Mais je pense aux commerçants, quand il fait un moins 20, là, t'sais, un moins 20 l'hiver, les chars n'ont pas le droit de passer, il n'y a pas un touriste dans la place. C'est ce bout-là, moi, qui m'inquiète pour les commerçants qui payent déjà une très large part de taxes commerciales à Québec. Souvent, on nous dit qu'on ne sait pas trop où couper à la Ville de Québec. Par contre, il y a un nouveau projet qui s'en vient. Ce projet-là s'appelle le Canard de Bain. Pardon. Le Canard de Bain, c'est un canard géant d'une hauteur de 30 mètres. Et c'est de l'artiste que je connais, là, que je suis depuis ma naissance, Florentine Hoffmann, qui flotterait à Québec en 2027. Donc, c'est un gros canard de bain jaune, géant, d'une hauteur d'à peu près 30 mètres. Et c'est ex-muro qui veut marquer un grand coup pour le 20e anniversaire. Donc, ça va faire plaisir à bien du monde. Je ne sais pas si vous vous souvenez des sculptures gonflables de Philippe Catherine qui étaient sur les bâtisses. C'était de toute beauté. Je ne sais pas comment ça a coûté, bien honnêtement. Mais n'en demeure pas moins que ce canard de bain sera sur le fleuve Saint-Laurent. Il est jaune, comme on connaît les canards de bain, d'une hauteur de 30 mètres. C'est immense, c'est gonflable. Donc, on l'a déjà exposé en France, on l'a déjà exposé à Hong Kong, Taïwan. C'est l'œuvre d'un artiste néerlandais. Et ce qu'on veut, c'est l'amener ici chez nous. Et quand la Ville de Québec avait sorti son programme d'œuvres monumentales, ex-muro avait appliqué avec quelque chose de monumental qui voulait marquer l'imaginaire. Puis c'est eux qui ont gagné. Donc, combien ça va coûter, ça, ce canard géant-là sur le fleuve Saint-Laurent? On est autour de 220 000 $ actuellement et ça pourrait impliquer d'autres coûts à la Ville de Québec. Certains diront que c'est une très bonne idée, d'autres diront que c'est une dépense folle. Chose sûre, c'est qu'avec toutes les attractions qu'on peut avoir à Québec, une attraction de plus qui plairait aux touristes, parce que c'est clair et net que ça va plaire aux touristes, ça va se faire prendre en photo. Peut-être pas autant que le château Frontenac, mais ça peut être rentable à long terme pour la Ville de Québec. Je ne sais pas. Textez-moi, 418-971-1021, 418-971-1021. C'est-tu une dépense folle? Moi, je pense que oui, mais je J'étais un cheap, moi. J'suis vraiment un cheap. D'autres diront que c'est une dépense qui en vaut vraiment la peine. Si vous voulez voir le gros canard géant, là, entre autres quand il avait été exposé à Toronto en 2017, c'est immense. Il est pratiquement plus haut que certaines bâtisses à Toronto. J'ai hâte de voir le résultat à Québec. Article intéressant sur le crime organisé dans la presse, et on aura l'occasion de lui jaser tantôt. C'est le journaliste Daniel Renault qui a écrit cet article-là, puis on parle du crime organisé. Les Hells Angels qui, je dirais, il y a deux ans peut-être, un an, deux ans, trois ans, étaient perçus comme étant un groupe de motards qui était en perte de vitesse. Les gars à Québec, entre autres, étaient très vieillissants. Je ne veux pas faire d'âgisme, là, mais on parle de gars qui sont autour de 50, 60, 70, puis des fois, mais c'est dans 70 avancés. Et les hang-around qui tournaient aux alentours de ces gars-là, ben souvent disaient, là, les gangs de rue sont en train de s'en prendre à ma famille, ils me font des menaces sur mes enfants qui vont à l'école, donc moi, ça ne m'intéresse plus le milieu interlope, ça ne m'intéresse plus de travailler pour toi. Donc les Hells Angels étaient dans une drôle de position. Et j'ai hâte de parler avec Daniel tantôt, parce que semblerait que le vent a tourné, même s'ils ont été secoués par des rébellions, en particulier dans l'Est du Québec depuis trois ans, ben les Hells Angels reprennent du poil de la bête et redeviennent une priorité pour la police partout au pays. C'est Daniel Renault qui a rencontré récemment des officiers supérieurs de la police spécialisée dans la lutte contre les crimes organisés au Québec. Et ils ont réussi à faire une mise à jour là, du portrait actuel des principales organisations criminelles montréalaises et québécoises, des violences qui perdurent dans l'est de la province et celles qui ont été éclatées qui ont éclaté récemment dans les prisons et pénitenciers du Québec. Et les officiers ont bien sûr demandé l'anonymat pour ne pas nuire aux procédures judiciaires ou aux enquêtes en cours, mais ils étaient tous réunis à Edmonton, en Alberta, dans le cadre d'un comité, ça s'appelle le comité RICO. Donc, RICO, c'est Réponse intégrée canadienne aux crimes organisés. Les principaux organismes d'application de la loi et décideurs de haut niveau du Canada ont convenu d'accorder la priorité à la lutte contre les Hells Angels de la section de Montréal, entre autres, et au cartel mexicain. En 2026-2027. On parle beaucoup des Hells Angels, on parle beaucoup des gangs de rue, mais les cartels mexicains fonctionnent, puis pas à peu près à Montréal. Ça, c'est de l'information qu'on avait depuis l'an passé, peut-être là, deux ans qu'on nous avait raconté ça dans la presse. Donc, selon les responsables policiers, les Hells Angels profitent du fait que les gangs émergents qui les attaquaient de ces dernières années s'entre-déchirent actuellement pour des territoires. Donc, les Hells semblent être au-dessus de tout ça. On dit qu'ils se servent de leur club subalterne. Bien sûr, ça a toujours été. Là, les Hells, comme je vous disais, un peu plus vieux, font énormément d'argent, veulent pas prendre un an, deux ans, trois ans de prison. Donc, ils confient des contrats aux clubs subalternes. C'est comme ça dans la Chaudière-Appalaches aussi, en Beauce. Ce qu'on dit, c'est que dans la région de la Mauricie, trois clubs de subalternes, les Satan Crew, les Full Metal et les Red Bones, ont récemment fusionné pour devenir un seul club-école, les Red Devils de Trois-Rivières. Et gageons que les Red Devils de Trois-Rivières feront des petits ailleurs au Québec avec d'autres groupes de motards organisés qui ont d'autres noms. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant aussi? Ah, mais je suis pas un hater de Donald Trump. J'étais quand même positif par rapport à son deuxième mandat. Son premier mandat était relativement correct. Quand on regarde la colonne des plus et des moins dans le premier mandat, je pense que c'était un plus. Là, actuellement, ce mandat-ci est un peu catastrophique. Catastrophique pour la paix dans le monde, certains diront. Catastrophique pour le prix de l'essence, certains diront. Mais il y a plein d'autres raisons de dire que Donald Trump a de la misère avec son deuxième mandat. On a sorti le rapport sur le montant d'argent qui s'est fait dans les dernières années, depuis son retour au pouvoir, entre autres. Donc, sur le site de Radio-Canada, prendre une petite gorgée de café, je suis en train de perdre la voix encore. Désolé. Voici comment Donald Trump a accumulé plus de 2 milliards de dollars depuis son retour au pouvoir. C'est sur le site de Radio-Canada qu'on peut lire ça. Il y a 927 pages qui ont été écrites pour le rapport annuel sur les finances du président américain. Je peux vous dire que dans mon rapport d'impôt, c'est pas, il n'y a pas autant de pages. Je ne sais pas pourquoi. Ah, c'est peut-être parce que je suis pauvre. Mais 927 pages pour le rapport annuel sur les finances du président américain qui ont été rendues publiques plus tôt cette semaine par le Bureau d'éthique gouvernementale. Et ça témoigne de l'étendue des activités commerciales et boursières de Donald Trump. Le dernier rapport sur celle de Joe Biden en 2024. Donald Trump, 927 pages. Le rapport sur l'argent de Joe Biden en 2024, 11 pages. On préfère être le comptable des 11 pages que des 927 pages, n'est-ce pas? En 2025, le 47e président américain a encaissé 2,2 milliards de dollars américains, près de 4 fois plus que ce qu'il avait déclaré dans l'année qui l'a précédé son retour au pouvoir. Et l'an dernier, Caroline Leavitt, qui est une des porte-parole de la Maison-Blanche, avait affirmé que Donald Trump avait en fait perdu de l'argent en devenant président des États-Unis. Malheureusement pour elle, le rapport dit totalement le contraire. Il est riche comme Crésus. Ses adversaires, mais aussi des experts en éthique, relèvent que cette situation exceptionnelle brouille la frontière entre les intérêts personnels et la conduite politique américaine, ce que dément, bien entendu, la Maison-Blanche. Et Donald Trump a dit cette semaine, « Est-ce que vous savez pourquoi je fais des profits? Je fais des profits parce que la bourse monte. Tout le monde fait des profits. » Et parce qu'il y a des gens qui l'ont posé, là. Ils ont posé des questions sur ces entreprises qui étaient de plus en plus florissantes. Lui, il dit, « J'ai pas le droit de regard. Mes avoirs sont placés en fiducie. C'est d'autres personnes qui s'occupent de ça. » On dit qu'il y a une croissance fulgurante là, par rapport aux 57 millions qui avaient été engrangés en 2024, année de l'entrée de sa famille dans un marché que Donald Trump fustigeait il y a de ça quelques années à peine. On parle de la crypto-monnaie. En un an, c'est les actifs de crypto-monnaie, donc on appelle ça des actifs numériques, sont devenus sa principale source de revenus, éclipsant l'immobilier de Donald Trump. Et on s'entend, là, Donald Trump a bâti, lui et sa famille ont bâti un empire, 550 millions qui provenaient du World Liberty Financial, une plateforme de crypto-monnaie fondée notamment par le président et ses trois enfants, ses trois fils. Une part importante aussi de cette somme provient du Fonds d'investissement public des Émirats arabes unis, qui a acquis 49% dans WLF en janvier 2025, quelques jours avant l'investiture de Donald Trump. Une autre entreprise aussi qui est liée à la famille, qui a par ailleurs encaissé près de 635 millions de dollars grâce à la vente de jetons, les meme coins Trump. Ça a été lancé juste avant qu'il ne devienne président des États-Unis. Donc, on dit que l'engagement du président américain dans ce secteur, entre autres, de la crypto-monnaie, soulève des questions éthiques qui illustrent notamment l'assouplissement notable de la réglementation sous sa présidence ou encore la participation des Émirats arabes. On dit participation émiratie. Selon une analyse récente de Reuters, portant jusqu'en 2026, la famille Trump a ajouté 2,3 milliards de dollars à sa fortune grâce à des activités dans la crypto-monnaie, tandis que plus d'un million d'investisseurs ayant misé sur leur projet ont collectivement subi des pertes nettes d'un montant équivalent. Et le nom de Donald Trump continue de se vendre à l'étranger, même si l'immobilier a cessé d'être son principal moteur. À Donald Trump, principal moteur de son empire, bien entendu, le pan de ses affaires a connu sa plus forte expansion depuis la fondation de l'entreprise familiale il y a un siècle. Le président américain a déclaré des dizaines de millions en redevances liées à de nombreux projets hôteliers, touristiques et résidentiels de luxe exploitant le nom Trump à l'international. Donc, énormément d'argent que fait le président des États-Unis d'Amérique. Grand bien lui fasse. Une compagnie de propane. Ça, c'est dans le soleil. Mauvaise nouvelle pour les compagnies d'assurance et cette compagnie de propane-là. Compagnie de propane et son assureur qui devront verser 1,5 million de dollars au Fonds d'assurance des municipalités du Québec après avoir été reconnus responsables de l'explosion et de l'incendie qui ont détruit l'aréna à Saint-Prosper en Beauce en 2019. Le jugement de la Cour supérieure blâme également la municipalité qui avait négligé des travaux qui étaient jugés urgents à l'époque. Et en 2019, il y a un incendie qui avait éclaté à cet aréna-là alors qu'il y avait une quinzaine d'élèves et leurs enseignants qui se trouvaient sur la patinoire. Heureusement, tout le monde a été évacué rapidement. Et là, il y a une explosion qui survient dans le garage qui était attenant à l'aréna. Le brasier qui s'ensuit n'a fait ni mort ni blessé, mais détruit complètement l'aréna en partie et le centre culturel voisin. Et on met ça sur le dos de la compagnie de propane. Donc, c'est à lire dans Le Soleil de ce matin. Et je termine avec, avec ça. Bernard Drainville, qui change du tout au tout, ça nous surprend. Bernard a toujours suivi une ligne bien, bien droite. Il n'a jamais été là où le soleil brillait. Bernard Drainville, qui, le après, lâchez-moi avec les GES. Ben, les GES, pour l'instant, en ce 3 juillet, les GES, pour l'instant, c'est un atout commercial maintenant pour l'homme fort de Christine Fréchette. Après, c'est, ça fait quand même 3 ans qu'il avait lâché ça, là. Lâchez-moi avec les GES. Ben, il mise désormais sur les faibles émissions du Québec pour faire des arguments de vente à l'extérieur. Donc, le super ministre économique de Christine Fréchette a tenu ses propos lors d'une annonce chez Groupe ADF, qui est un fabricant québécois de charpentes métalliques et de composantes d'acier établi dans Lanaudière. Donc, Bernard Drainville qui change du tout au tout. On s'y attendait pas. Non, non, mais pas du tout. Il est persuadé que le plan de 200 milliards d'investissements d'Hydro-Québec viendra apporter de l'eau au moulin. Je dis 200 milliards, c'est 200 millions. Excusez-moi. Donc, il a été questionné par le Journal de Québec. Bernard Drainville dit vouloir diminuer les gaz à effet de serre de 37,5% au Québec d'ici 2035. Donc, il est redevenu Bernard, celui qui va où le soleil le mène. Il est comme ça. Il est 6h26, vous avez des choses à nous dire. C'est le 418-971-1021. 418-971-1021, c'était les principales nouvelles de la journée. Il en reste d'autres. On va revenir sur certains sujets, bien entendu, avec Jeff et Max dans les prochaines minutes. Donc, textez-moi s'il y a quoi que ce soit sur la route. Merci de vous en informer. Elle sera chaude encore. Un peu comme hier, ça pourrait monter jusqu'à 40, que dis-je, 38 degrés selon Environnement Canada comme température ressentie. Même journée qu'hier, alternance de soleil-nuage avec 30% de probabilité d'averse cet après-midi. Risque d'orage, même chose en soirée, un 30% de probabilité d'averse, minimum de 18. La bonne nouvelle, samedi, dimanche, c'est plein soleil.
Marceau,
hey, je regarde le line-up pour les prochaines minutes, les prochaines heures. Il va y avoir du monde dans ce show-là. Beaucoup, beaucoup de choses. Marc-André Leclerc, chroniqueur politique, va être là. Normand Mousseau, qui est un spécialiste de l'énergie au Québec, qui va être là. Yves Daou, directeur du contenu économique et d'affaires au Journal de Québec et Journal de Montréal, qui va être là.
On va nous parler de Trump.
Ouais.
On va parler du méchant Trump.
Il est milliardaire.
C'est quand même incroyable tout l'argent qu'il a réussi à faire. Hein. C'est,
en étant président, ça, tu sais.
Tout ce qu'il a mis en place. Ouais, ben, c'est le genre de choses qui. Tu sais, moi, je suis sur des sites là, un peu nébuleux là, pour la bourse. Il y a beaucoup de day traders qui sont là. Puis eux, ils surveillent toutes les allées et venues de Donald Trump, tout ce qu'il dit. Toutes les décisions qu'ils prennent. Puis après ça, ils s'en vont sur les graphiques. Puis là, ils voient les graphiques bouger. Puis là, ils envoient les graphiques. Regardez, là, il y a 15 minutes avant qu'ils disent ça, il y a eu un gros mouvement. Ces gens-là suivent ça, mon gars, à la lettre.
Exactement.
Est-ce qu'il y a du délit d'initié là-dedans? Je le sais pas. Tu sais, c'est pas moi qui tiens le fanal.
Oui, puis tu sais, honnêtement, je suis pas assez spécialiste pour me prononcer.
Mais c'est louche.
Mais exactement. Mais les faits, puis c'est ce qu'on va parler avec M. Daou, démontre que Donald Trump s'enrichit avec sa présidence. Là, il y en a plusieurs qui vont dire que c'est pas le seul qui le fait, en effet, mais il s'enrichit beaucoup, 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 beaucoup.
Ouais. Barack Obama a fait de l'argent après sa présidence?
Oui, vraiment, avec ses conférences.
Avec ses conférences, avec, même affaire pour Michelle.
Oui. George W. Bush est très prisé aussi pour les conférences.
Oui, il y avait pas mal d'argent avant, lui.
Oui.
Mais Barack Obama, c'était un avocat de formation. C'était pas un avocat, imminent avocat. Là. C'était un avocat qui s'exprimait super bien. Puis sa montée a été fulgurante, mais c'était pas quelqu'un qui était milliardaire.
Faut se souvenir que Barack Obama était pas pressenti pour être le candidat démocrate en 2018. Sa première élection, c'est 2000... non, c'est pas 2018, c'est 2014. C'était Hillary Clinton.
Ouais.
Mais il est arrivé au Congrès des démocrates en 2010, puis il a tout cassé.
Beau gosse, s'exprime super bien.
Ouais. Parce qu'il était. Parce que dans l'ordre, tu avais Obama qui faisait un discours, Hillary Clinton et le candidat démocrate, que j'oublie toujours son nom, qui est un ancien de l'armée américaine, là, qui a perdu justement contre Bush. Et Obama a tellement fait un discours exceptionnel sur l'État d'Union, Yes We Can, et etc., que là, les gens ont fait « OK, Hillary va aller dans un petit coin, puis c'est lui qu'on va amener à la présidence. »
Mais tu sais, pour ce qui est des délits d'initié à la bourse, tu sais, je regarde les day traders qui connaissent ça pas mal plus que moi, puis m'arrive avec des graphiques. Des fois, tu te dis, mais OK, il y a raison de se poser des questions. Mais en Iran, ça doit être la même chose, là. Tu sais, t'as un Donald Trump, oui. Les négociations vont super bien. Oups, la bourse commence à augmenter.
C'est de l'air.
Les Iraniens disent, hey, tabarouette, le cours des actions est bien trop cher. Non, ça va pas, oh. ça marchera pas. On va garder notre main mise sur le détroit d'Hormuz. Bouf, les actions commencent à descendre.
Ben oui.
Fait que là, ils achètent. Ben là, Trump arrive, ça va super bien, ça augmente. C'est sûr que tout le monde doit s'amuser dans l'entourage.
C'est clair. Clair, clair, clair.
Tu sais, normalement, ils disent qu'ils surveillent ça, là. Mais ils surveillent ça à quel point, là?
Ouais, c'est ça.
Donald Trump, là, y a-tu juste un cellulaire qui est écouté par le Secret Service? Il peut-tu avoir un deuxième cellulaire qu'il a acheté, mettons, chez Couche-Tard?
Ben, tu sais, je me dis, je vais prendre l'exemple de représentants sur la route que je connais qui ont leur cellulaire de job et leur cellulaire personnel.
Ouais.
Ben, est-ce que Donald a son cellulaire personnel?
Je sais pas. C'est-tu Donald Trump qui voulait pas se séparer de son BlackBerry à un moment donné?
Ah,
dans son premier mandat, ouais, les gens ils capotaient un peu là, parce qu'ils voulaient pas se séparer de son BlackBerry personnel. Puis il avait comme trouvé une faille là, dans le BlackBerry pour essayer de lire la messagerie. Hey, ça date, là, c'était dans le premier mandat de Donald Trump.
En fait, c'est le contraire de ce que je lis. C'est qu'il voulait rien savoir d'utiliser un BlackBerry.
Puis il avait un iPhone.
Parce que lui, ouais, c'est ça, il avait autre chose. Puis du côté sécurité, il disait « Faut que tu utilises un BlackBerry, c'est ce qui est le plus sécuritaire. » Puis lui, il voulait rien savoir d'utiliser un BlackBerry.
Ben, on est beaucoup de même, là. Tu sais, moi, là, j'essayais de prendre le téléphone à mon gars. Je sais pas c'est quelle marque de téléphone, mais moi, j'ai un iPhone. Ouais. Je dois avoir eu 2 ou 3 iPhones depuis que j'ai des téléphones cellulaires. Puis tu me mets sur un autre téléphone, je suis tout perdu.
Ah, moi, si j'ai un problème avec mon téléphone... Chez nous, ça va être Edou qui va pouvoir me démêler parce qu'il a le même téléphone que moi, un Android. Elliot a un iPhone, oublie ça, il prend mon téléphone, c'est comme quoi cette affaire-là.
Mais qu'est-ce qu'il y a d'intéressant chez Android?
Ben, je sais pas, moi, c'est juste parce que le premier téléphone que j'ai eu dans ma vie est Android, puis fait je me suis habitué à la plateforme.
Tu dois rester là-dessus.
C'est ça. Honnêtement, c'est juste pour une habitude de consommation. Faudrait qu'à un moment donné, je dis OK, je casse mon habitude, je prends l'iPhone.
Tu sais, c'est comme PC ou Mac.
Ouais.
Tu sais, PC, j'ai toujours eu des ordinateurs PC, des portables PC, mais une fois que j'ai touché au Mac, Apple, le rêve. L'image est claire, c'est hyper intuitif. Une fois que tu t'es habitué à ça, revenir au PC, c'est tough. Là.
Ouais, je comprends.
Et que c'était tough. Même des fois, tu sais, ça fait comme 8 heures que tu travailles sur un Mac, là. Puis ton Mac, ça dépend quel ordinateur que t'as, mais mettons, t'as ton iPad. Là, je t'aurais dit n'importe quoi, mais mettons que tu as ton Mac, puis tu réalises des opérations qui sont hyper intuitives. Après ça, tu arrives sur ton PC, tu pognes ta souris, puis il n'y a plus rien qui marche. Tu te sens comme un Android. Ou tu travailles sur ton iPad toute la journée, ce qu'on fait de moins en moins, là, travailler sur l'iPad.
Ben oui.
Mais tu travailles sur ton iPad toute la journée, puis après ça, tu arrives sur ton PC, puis tu passes ton doigt dans l'écran.
Oui!
On est vieux, hein?
Mes gars, avant de toucher un ordinateur, ont touché à des tablettes. Et la première fois qu'ils ont pris un portable, jouaient dans l'écran de même.
Ben oui.
Là, il fallait que je leur explique. Non, ça marche avec le touchpad, puis avec ça, avec ça.
Toi, t'as-tu un iPhone? Hein?
Ben oui, moi, tu me mets un BlackBerry dans les mains. Ben, pas un BlackBerry,
BlackBerry, j'aimais ça parce qu'il était petit, puis il était fait, là, tu sais, il était fait pour aller à la guerre.
Ça existe plus, ça, BlackBerry. Je sais pas s'ils se sont réinventés en quelque chose.
BlackBerry, tu fais l'échapper de 50 mètres de haut, puis il ne cassait pas.
Tu étais capable d'écrire là-dessus sans aucun problème. Le iPhone, pour les messieurs qui ont des gros doigts, là, les gars de la construction qui ont de la corne, là, ça doit être tough. Là. C'est pas parce qu'il fait des fautes, là, c'est juste parce qu'il y a des gros doigts. Là.
Ouais, j'ai mon Vincent qui coachait avec moi cette année au hockey. Son cellulaire fait comme se transformer en espèce de mini-tablette, puis là, il écrit avec ça.
Parce qu'il y a des gros doigts?
Ouais. C'est comme un deuxième... c'est comme son cellulaire se doublait, mais il y en a un, c'est juste la tablette pour écrire.
Ceux qui ont des Android, je pense qu'un des avantages qui est beaucoup vanté, c'est la caméra. Ça a l'air qu'il y a certains appareils Android qui ont vraiment une solide meilleure caméra que les iPhones. Je trouve qu'elle fait un job en masse.
Ah ouais, parce que
j'ai un 15 Pro, mais... tu sais, ça a bien de l'allure.
Non, mais c'est vrai que la caméra Android, tu sais, moi, là, les photos que je prends de moi, là, quand je me regarde après, je
suis ah oui, ben, c'est photos. Ça. T'appliques un petit filtre. Ah, puis c'est, je parlais avec. C'était avec qui je parlais ça? Je pense que c'était avec quelqu'un qui est porte-parole au service de police de la ville de Québec. Puis on parlait des avis de recherche pour les jeunes étudiantes. Tu sais, mettons, les petites filles de 14, 15 ans, là, c'est rendu tough de trouver une photo qui ressemble véritablement à la petite fille.
Ah.
Parce que là, les petites filles utilisent, puis là, ça peut être la même affaire pour des petits gars, mais normalement, c'est une affaire de petite fille. Les petites filles utilisent des filtres pour mettre leurs photos sur Instagram, pour mettre leurs photos sur Facebook. Puis une fois que la petite fille a disparu, mettons qu'elle a été empruntée par quelqu'un pour l'amener à New York, ben là, il essaie de chercher une photo qui ressemble le plus.
Qui va permettre que si toi au moins la croise dans la rue, on fasse « Hein, sa petite fille! »
Parce que sinon, tu regardes la photo puis tu regardes la petite fille, tu ne la reconnais pas.
Ouais.
Tu ne la reconnais pas, mais pas pantoute. Fait que les porte-parole me mentionnaient ça il y a de ça quelques semaines.
Ouais, c'est intéressant.
C'est weird, là. Puis là, ben tu es oui, obligé d'aller voir la famille, bien entendu, pour dire « Ouais, mais avez-vous une photo peut-être un peu plus jeune ou elle n'a pas de filtre? » Tu sors la photo quand tu l'avais pris avec ton Kodak, là.
J'ai vécu ça dans mes anneaux, pas trop Charlebourg, une petite fille qui s'est fait enlever. Elle est retrouvée à Montréal. Non, ça a été un 48 heures très tough.
Ça a-tu brassé hier dans ton. On change complètement de sujet, là, dans ton secteur? Avez-vous eu un gros orage?
Non, parce que j'étais dehors sur mon patio toute la soirée.
Chez nous, il a venté un peu. J'ai vu qu'il avait plu un peu, mais c'était pas la même affaire qu'à Montréal. À Montréal,
ben non,
120 km/h les vents. Y a-tu encore énormément, Max, de maisons qui sont privées d'électricité?
Il y en avait quand même une couple, là.
4 heures ce matin, était autour de 60 000.
Ma page est plus accessible. Ils ont changé leur lien, les tabarouettes.
4 heures ce matin, c'était autour de 62 000 foyers qui étaient privés d'électricité. Puis, tu sais, je voyais cette nuit des gens qui disaient « Ouais, mais enfouissez toutes les fils électriques. Ils peuvent pas faire ça. »
Mais non!
On est à peu près 20 000 Laurentides, quasiment 20 000 Lanaudière aussi, 8 000 Laval, 2 500 Montréal.
Fait qu'il y a un 62 000, ça peut ressembler à ça.
Capitale-Nationale, Choisir-Appalaches, on a absolument rien. Là. Total, on est à peu près 50 000 au Québec.
Non, au contraire, moi, le petit vent qu'il y a eu hier soir me faisait du bien sur mon patio.
À un moment donné, le soleil est revenu.
Oui.
Il est revenu. Tu sais, c'était très, très gris. Là.
Oui, t'as raison.
C'était sur l'heure du souper.
Oui, ben oui, j'ai soupé dehors, puis c'était très gris.
Puis après ça, le soleil est revenu, mais ça a brassé comme pas possible. Puis enfouir les fils, les amis, arrêtez avec ça.
Mais non, ouais,
ils sont capables de le faire pour les nouveaux quartiers avec des ententes qui prennent avec les constructeurs. Mais je veux dire, ici, il faut que tu ouvres le sol, puis tu mettes les fils dans le sol. Ça n'a pas de sens. Puis si jamais il y a un bris, bonne chance, là. Faut que tu rouvres le sol.
Non, t'es, on parle de travaux en ville, là. On a parlé de la rue Buade hier. Imagine si tous les fils étaient enfouis.
Ouais, mais tu sais, en ville, quand tu fais ce type de travaux-là, tu peux les mettre dans